C'est 23.
Au réseau Cogeco, Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Jérémy Rainville.
Ce qui retient l'attention aujourd'hui, Cole Caulfield, prolongation de contrat de 8 ans d'une valeur de 62,8 millions de dollars avec le Canadien de Montréal. Pour en parler, il était à son point de presse virtuel. Martin McGuire est avec nous. Salut Martin.
Salut Jérémy.
Martin, et juste avant, c'était le fun d'entendre Nathan Gaucher. Mmh. Choix de première ronde des Ducks Anaheim en 2022. Écoute, le jeune, il est mature. Là. Il joue du bon hockey puis il est mature.
C'est un bon joueur de hockey, il est solide. Moi, j'aime bien. En tout cas, je l'aime bien, Jérémy. Je ne sais pas si on va le voir dans un rôle de joueur vedette dans la Ligue nationale, mais je vois aisément ce gars-là jouer, tu sais, un rôle important dans une équipe de hockey de la Ligue nationale. Il est solide physiquement, vraiment. Puis, genre de joueur là que quand l'enjeu monte, là, tu le vois pas disparaître. Non, ça, c'est bien important.
Exactement. Tu sais, puis c'est un joueur qui est important. Puis parlant de joueurs qui seront importants pour le Canadien, Cole Caulfield vient de...
Oui.
En fait, j'utilise un terme en anglais, vient de faire un statement. Là. 8 ans de temps avec le Canadien, c'est là que ça se passe, je reste avec l'équipe.
Je vais t'avouer, j'écoutais ton petit commentaire sur le contrat et sur les tergiversations avant. Je vais t'avouer une chose. Vendredi dernier, la semaine dernière, à la fin de la dernière semaine, j'ai fait une petite intervention avec Mario avant que la finale de la Coupe Stanley commence. Puis je suis allé cette réflexion-là, puis je reviens là-dessus parce que j'ai pas peur, je m'assume. La semaine passée, j'ai dit est-ce que le temps que ça prend nous laisse croire qu'on s'en va vers un contrat de transition?
Mm-hmm.
Moi, je me disais qu'à ce moment-là, la semaine passée, on n'avait pas vent trop de ce qui se passait. C'était un peu silence radio dans ce dossier-là. Je me disais, est-ce qu'on se dirige vers ça? Puis j'ai même ajouté, si c'était un contrat de 8 ans, il serait probablement signé. Mais c'est parce que ce que je savais pas, c'est qu'au moment que je le disais à Mario, ils étaient à finaliser le contrat de 8 ans, dont on a annoncé, bien sûr, les détails aujourd'hui. Jérémy, c'est vraiment, pour Kent Hughes, c'est un bon coup d'affaires de business hockey. Parce que avec ses deux têtes, là, son monstre à deux têtes à lui, là, c'est-à-dire Suzuki et Caulfield, les fondations du Canadien de Montréal, là, on sait combien ça va coûter pour les 7 prochaines années dans le cas de Suzuki et les 8 prochaines années pour Cole Caulfield. Tu l'as dit tantôt, c'est 7,850 millions pour notre ami Caulfield et 7,875 millions pour Suzuki. La beauté là-dedans, c'est qu'on ne connaît pas comment les revenus vont s'accroître dans la Ligue nationale au cours des 3, 4, 5 prochaines années. Alors, on ne sait jamais, Jérémy, peut-être que dans 4 ans, ce contrat-là va être une vraie aubaine, surtout si Cole Caulfield s'avère être le marqueur de 40 buts, dont il aurait probablement été ou tout près de 40 buts s'il n'avait pas eu cette blessure à l'épaule. Il y avait encore cette possibilité de contrat transitoire pour Caulfield. Je rappelle à nos auditeurs que Jason Robertson à Dallas est allé avec cette option-là, un contrat de 7,7 pour 4 ans dans son cas. L'avantage encore pour le Canadien, c'est que quand Caulfield va être dans son meilleur, son contrat va être valide encore pour plusieurs saisons.
C'est ça.
Ça va l'amener à l'âge de 30 ans. Ça veut dire, Jérémy, que les meilleures années de joueur de hockey de Cole Caulfield, peu importe ce qui arrivera à la fin de la saison 30-31, il va les avoir passées avec le Canadien de Montréal. Même chose pour Nick Suzuki. Ça, c'est très important. Pourquoi 8 ans? Pourquoi lui a choisi 8 ans? Voici sa réponse.
Kind of understood on both sides too. I mean, that's our guy, that's our leader. I think everyone around knows that. And, you know, it's still a heck of a lot of money. So, not complaining about anything like that. Again, I'm excited and proud to be a part of this and to do it with him along the way will be pretty special as well.
Alors, sur cet extrait-là, on entendait Cole Caulfield mentionner et commenter le fait, Jérémy, qu'il y a 25 000 piastres entre le contrat de Cole Caulfield et de Nick Suzuki. Les gens qui nous écoutent vont dire, on est rendu à 60 millions passés, là. Qu'est-ce que 25 000 fait? Ben, c'est symbolique. Puis c'est ce que répondait Cole Caulfield. À quelque part, Jérémy, le leader de l'équipe, c'est Suzuki. C'était accepté des deux côtés de la table.
Ouais.
C'est-à-dire que probablement que quand les négociations ont commencé, tout de suite, les choses ont été établies que l'échelle salariale serait respectée chez le Canadien de Montréal. Puis ça, ben, c'est une très bonne décision dans les circonstances. On va entendre justement l'explication de Cole Caulfield sur le choix d'avoir signé tout de suite un engagement de 8 ans.
I mean, for me, just kind of, you know, making myself, my family set for a while, and I think a lot of things go into it, but for me, I wanted to be here. I wanted to be here for a long time. I love where this organization's going. The mindset, the group of guys that we got, the younger players everywhere, it's just going in the right direction. And, I put myself as a huge part of this team building forward. And I think at the end of the day, both sides kind of got what we wanted. And I couldn't be more proud.
Il se voit à Montréal, mm-hmm. Jérémy. C'était ça la clé. Tu sais, si on résume un peu ses propos, il n'a jamais vraiment considéré autre option que le contrat de 8 ans. Il sait qu'il va faire partie de la solution à Montréal. Alors, il se voit là-dedans. Il a une bonne relation avec tous ses coéquipiers. Puis, on l'a dit souvent, là, mais tu sais, moi, j'ai pas vu beaucoup de joueurs blessés là, passer 45 minutes à regarder ses chums pratiquer.
Non, il amène quelque chose à l'équipe, là. Il amène une dynamique.
Lui, il fait ça. Écoute, Jérémy, ils ont été obligés de cacher ses patins. Ils ont pas pris de chance. Ils ont caché ses patins parce que, là, tout à coup, qu'il ramasse ses patins, il se les met dans les pieds puis il s'en va patiner pendant qu'on a le dos tourné. Alors, si on a fait ça, c'est parce qu'on pense qu'il l'aurait peut-être fait. Alors, Cole Caulfield, c'est une boule de positivisme. Je vais prendre l'expression pour l'exprimer comme ça, Jérémy, pour que les gens nous comprennent. En plus, c'est un gars qui, non seulement positif dans l'équipe avec ses coéquipiers, mais moi, je l'ai vu agir avec des enfants, je l'ai vu agir avec des adultes, des amateurs de hockey. Il prend le temps, il signe tout ce qu'il y a de chandail où c'est marqué 22 Caulfield en arrière. Si vous aviez vu pendant l'hiver où il a été blessé puis il est resté sur la galerie de presse, les gens qui visitent de temps en temps, souvent certains avaient des chandails de Cole Caulfield. C'est lui qui les sollicitait, les arrêtait, signait le chandail, la photo. Tu sais, cette espèce de ce qui incombe à un joueur vedette du Canadien, Jérémy, Cole Caulfield, il l'a compris. Puis avant de te donner la parole, je lui ai posé la question. Si la blessure à l'épaule avait eu un effet sur sa réflexion, tu sais, un joueur qui vient d'être blessé pour une première fois, la blessure nécessite une opération. D'ailleurs, il a eu le feu vert des médecins. Il patine 2-3 fois par semaine, puis il va être correct au camp. Mais je lui ai demandé si la blessure, il a pas fait penser que la sécurité était la meilleure option plutôt que de parier sur lui-même. Puis il m'a dit que ça vraiment pas été dans la réflexion, la blessure et les circonstances.
Il y a peut-être quelque chose qui a embarqué dans sa réflexion, c'est d'avoir Martin Saint-Louis comme entraîneur. Parce qu'on a vu une connexion, les deux la même capacité de marquer, le même gabarit. Il y a quelque chose qui s'est créé avec Martin Saint-Louis et ça pourrait peut-être avoir pesé dans sa décision, crois-tu?
Le premier soir que Martin Saint-Louis a dirigé derrière le banc, souvenez-vous, Caulfield gaspille une chance de compter parce qu'il est pas confiant, il tire d'un angle impossible, puis il retourne au banc. Pendant la pause de télé, Martin Saint-Louis a une petite conversation, lui parle à l'oreille. Deux fois plus tard, deux bonnes chances de marquer, des vraies bonnes chances double A pour Cole Caulfield. Ça a parti là, Jérémy. Puis après, on a senti la solidité de la relation. Je l'ai amené là-dessus aujourd'hui. Voici pourquoi la présence de Martin Saint-Louis a probablement influencé la décision d'aujourd'hui.
I think it's very special, kind of the way he coaches. It's probably a different style than most teams have. So he makes it fun. He makes everybody around him kind of more energetic. He kind of knows when to press the buttons, knows when to get the guys going and things like that. But, you know, a lot of power in the room. So I think, obviously, Marty's going to teach me a lot. I already have to this day. So obviously, a big part of that was him. But, I couldn't be more thankful to be a part of this organization.
Alors, je rappelle que c'est un point de presse virtuel. Il était au Michigan. Alors, c'est pas comme si on l'avait rencontré en personne avec les bons micros de la salle de presse. Là, mais ce qu'il nous dit, là, grosso modo, c'est que Martin Saint-Louis a la chambre bien en main. C'est quelqu'un qui a une présence importante dans l'équipe du Canadien. Il a dit, il connaît les bons boutons. Il sait peser sur les bons boutons pour faire fonctionner son équipe, pour nous faire fonctionner. Il a dit, c'est clair que depuis que je le côtoie, j'ai appris énormément. Je vais continuer d'apprendre avec lui. Mais je me répète, le lien de confiance qui existe entre les deux et aussi avec Nick Suzuki, ça stabilise puis ça rend beaucoup plus forte la fondation que vont représenter Caulfield et Suzuki avec le coach.
Maintenant, Martin, est-ce qu'on a des petites nouvelles de l'épaule de Caulfield?
L'épaule, elle va bien. Oh. On va l'écouter là-dessus.
Yeah, back home in Michigan for the summer. I got cleared about probably 10 days or so ago for full activity. So that's been nice. I think it's been a long journey for me. It's been tough at times, but at the end of the day, we're cleared now. It's full go. So been skating 2 or 3 times a week for the past 5 months now, and just kind of got into the shooting things. So I'm really looking forward to having this full summer to kind of make sure I'm back to 100%. And the way the things are going right now, I'm not too worried at all.
Alors, il est pas inquiet, les choses vont bien, les médecins lui ont donné le feu vert il y a pas tellement longtemps. Depuis, ça a pas été long, on a arrêté de cacher ses patins, fait qu'il a sauté dedans. Puis il patine, puis il travaille 2 à 3 fois par semaine. Et quand l'opération est arrivée, Jérémy, la direction du Canadien et tout le monde, ils étaient tous très confiants parce que le chirurgien a opéré Josh Anderson, puis Josh Anderson, son épaule blessée est plus forte maintenant que l'autre. Alors, on savait qu'avec une blessure assez semblable, on réussirait de la même façon avec Cole Caulfield. Alors, il n'y a pas de nervosité là. Il semble très calme par rapport à ça.
C'est quand même, tu sais, quand on pense à ça, je veux dire, c'est un investissement important pour le Canadien.
Oh oui.
On a confiance à la technologie, à l'opération. On sait que son épaule va être en pleine santé. Mais c'est de l'argent. Hey, imagine, là, tu donnes 62,8 millions à un jeune de 22 ans.
Ouais.
Quand même, hein?
Quand même. Puis en plus, Caulfield, il vient d'une famille assez modeste. Tu sais, c'est une famille américaine normale. Papa a travaillé, maman travaille. Tu sais, on les a rencontrés, Danny et moi, au fil des mois. On les a croisés, maman, pour la journée des mamans. C'est du bon monde, puis c'est du monde terre à terre. Puis là, ben, arrive 60, presque 4 millions de dollars dans la famille Caulfield, parce que c'est Cole qui gagne ça, mais on le sait ce qui va se passer. Il va gâter ses parents, il va s'assurer de mettre ses parents à l'abri du besoin pour un bon bout de temps. Tous les joueurs de hockey font ça généralement avec leurs parents, et Caulfield n'est pas étranger à tout ça. Écoute, c'est vraiment tout un pied dans l'entreprise, dans la business du hockey que Caulfield vient de mettre là avec ce contrat-là. On lui a posé la question si ça va le changer. On va écouter.
To be honest, it really doesn't make sense to me. It's something that I could have just dreamed about as a kid, but even this number probably wouldn't even have popped into my head. I mean, I just love being much and to be able to do this and in a place like Montreal for that amount of money. I mean, put the money aside, I just love being in Montreal, but it's huge to kind of have my family. It's not going to change anything about who I am, anything like that. I think I do it for free. So my passion for the game, it's never going to change. I'm really excited. And
alors, il est excité. Il aurait joué gratuitement. C'est ça, il aurait dû dire ça avant. Kent Hughes, ouais, il aurait joué gratuitement. Ça aurait été, le Canadien n'aurait pas dépensé autant. Non, je blague. Il a dit que ça le changerait pas. Il dit, je trouve ça un peu surréaliste d'ailleurs. Là. Il dit, j'ai jamais pensé à ça.
Mais ça, c'est rassurant d'entendre un gars dire c'est surréaliste. Parce que si tu dis que tu fais comme à semblant, là, ça n'a aucun sens. C'est vrai que c'est surréaliste. C'est beaucoup d'argent pour un jeune, là.
Mais veux-tu que je te dise, ça va le changer un petit peu?
Ben, c'est sûr.
Tu sais, je vais parler de façon réaliste. Là, les gens qui nous écoutent sont tous intelligents. Là, ça va le changer un petit peu. Je dis pas qu'il va être moins sympathique. Je dis pas qu'il va être moins généreux avec les partisans. Mais ça va le changer. Ça va le changer parce que sa vie va devenir très différente. Est-ce que sa famille va changer avec lui? Ce qu'on perçoit des Caulfield quand on les a rencontrés brièvement, là, c'est du bon monde. As-tu 2 minutes pour une anecdote?
Vas-y.
Faut que je la raconte, OK? C'est banal, mais ça va vous dire un peu comment le jeune homme est. Danny et moi sommes sur la route. Nous allons souper la veille d'un match au restaurant. Nous sommes attablés tous les deux, puis on placote, puis on fait l'alignement du Canadien, puis on parle de nos affaires comme d'habitude.
Ben oui.
Et la table près de nous est libre. Le restaurant est quand même assez plein, mais la table près de nous est libre. Et il y a un petit écriteau réservé. Et qui arrive à la dite table? Cole Caulfield, qui est avec une amie. Et je vais te dire, Jérémy, là, un bon 60% des joueurs de la Ligue nationale que je connais, là, un bon 60% des joueurs de la Ligue nationale que je connais auraient levé la main puis auraient demandé discrètement à la serveuse ou au serveur de changer de place.
Mm-hmm.
Lui, il s'est levé, il a présenté la personne qui l'accompagnait ce soir-là à Danny et moi, et il nous a souhaité bon appétit, et puis on s'est souhaité bonne soirée. C'est sûr que c'est un jeune de 22 ans qui faisait ça. Vous allez me dire, il peut bien changer, puis peut-être que dans 5 ans, McGuire, s'il se retrouve à côté de toi à table, il va effectivement demander de changer de table. Mais je voulais juste dire que j'ai rarement vu un athlète professionnel agir comme ça dans le contexte de la Ligue nationale avec un représentant, deux représentants des médias. C'est ça qui me rassure, Jérémy, sur le fait que Caulfield est un jeune homme terre à terre, mais plus que ça, il est là pour les bonnes raisons. Mais il va changer un petit peu.
Ben écoute, il y a 62,8 millions de bonnes raisons de changer un petit brin. Mais écoute,
juste un petit peu.
Ça l'honore, puis je pense que ça définit l'ADN de ce joueur-là. Martin, je veux te remercier énormément. On te laisse retourner à les vacances pour l'été, puis on a déjà hâte de t'entendre pour le début du camp d'entraînement, Martin.
Ah, puis écoute, le repêchage s'en vient.
On s'en va
à Nashville pour le repêchage. Puis je pense que j'ai des raisons de croire que le Canadien va peut-être tenter de nous rendre ça encore excitant. Ça va être à surveiller.
C'est ça qu'il faut. Martin McGuire, merci d'avoir été avec nous.
Salut, bonne soirée à vous.
Merci, au revoir. Martin McGuire qui nous parlait de Cole Caulfield. Je vous rappelle, contrat de 8 ans d'une valeur de 62,8 millions de dollars.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Aujourd'hui, Cole Caulfield, qu'on appelle à la maison Cole Caulfield. Tu sais, c'est comme il est cute, il marque des buts. Cole Caulfield. Il est plus riche de 62,8 millions, mais surtout, il est engagé à long terme avec le Canadien pour en parler. Guy Boucher est avec nous. Salut, Guy.
Bonsoir,
ça va
bien, Jérémy?
Ça va super bien, Guy. Raconte-moi, comment tu vois cette signature-là de Caulfield avec le Canadien pour les 8 prochaines saisons?
Bon, c'était inévitable. Moi, je voyais pas autrement. Là. Je vais être très, ça m'énervait pas beaucoup. C'était sûr que ça allait se faire. C'était juste une question de combien d'argent. Puis, tu sais, la seule possibilité, ça aurait été peut-être dans le camp de Caulfield de prendre ce qu'on appelle un deal, un bridge deal en anglais. Là. C'est-à-dire une entente, un pont. Ça veut dire que tu peux prendre pour moins d'années parce que tu peux essayer de miser pour sur toi-même dans le sens que, surtout dans les prochaines années, tu vas avoir probablement une grosse hausse du cap salarial. Ce qui fait que des fois, il y a des joueurs qui vont peut-être opter pour moins d'années parce qu'ils ont confiance en eux d'avoir des statistiques, des résultats qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir beaucoup plus d'argent dans 4, 5, 6, 7 ans. Mais je pense que c'est sage de sa part de prendre 8 ans. C'était juste pour le Canadien, c'était inévitable. Fait que oui, moi, je pense que c'est business as usual.
OK, parfait. Maintenant, Kent Hughes, avec ce contrat, est-ce que tu crois qu'il vient d'établir une échelle salariale à l'intérieur du Canadien? T'as Suzuki, tout le monde sera en bas de Suzuki?
Oh non, moi je crois pas à ça. Je crois pas à ça parce que ça change, la Ligue nationale change trop vite. Comme j'ai dit, le cap salarial dicte beaucoup. Qu'est-ce qui arrive là, si le Canadien réussit à mettre la main sur un joueur tout à fait exceptionnel, qui est meilleur que tout le monde dans le chez le Canadien? On n'arrivera pas à le payer, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que tu évidemment, en ce moment, c'est des jeunes, tu es capitaine et ainsi de suite, là, mais plus tu vas avancer, tu peux pas juste être rigide dans ce que tu vas avoir comme établi comme paramètre. Tu dois t'ajuster, tu dois t'adapter selon ce qui se passe dans les nationales, selon le marché.
Comment tu le vois, Caulfield, dans quelques années? Est-ce que tu le vois aussi enthousiaste et productif ou tu penses qu'à un moment donné, ça va stagner son histoire?
Ah non, moi, j'ai aucune inquiétude par rapport à sa production. Ça, regarde, depuis le début, moi, même si au début, c'était difficile pour la production, j'ai jamais pensé qu'il produirait pas. Moi, c'est pas la production qui va faire qu'il y a une progression dans son jeu. C'est la production, il va en avoir, il va faire des buts, tu sais, il va faire des points, il va être excitant, ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il va devenir un gagnant? Est-ce qu'il va devenir un joueur sur qui on peut reposer tous nos espoirs pour traîner une équipe? Alors, si on regarde les Sirens en ce moment, c'est quel type de joueur qui fait gagner son club? C'est tout le même type de joueur qui réussissent justement à être bon. Tant que t'es pas bon dans les deux sens de la patinoire, tu peux pas inspirer ton équipe. Tant que t'es pas capable justement de jouer dans les environnements, pas d'espace, dans les environnements où c'est robuste, donc pas de temps, pas d'espace. T'sais, à un moment donné, si tu veux gagner, t'as pas le choix de devenir un expert du hockey sans espace, du hockey robuste, du hockey où t'as des systèmes extrêmement hermétiques. Là, toutes les séries, on l'a vu, là, les quatre dernières équipes, c'était clair. Alors que ce soit pour le Canadien, que ce soit pour Caulfield, que ce soit pour les Maple Leafs de Toronto, que ce soit pour Edmonton, c'est la même chose. Le talent, c'est pas assez. Rendu en série, ce n'est pas assez. Tu dois avoir le talent plus. Alors la progression de Caulfield doit être la même chose que tous les autres bons joueurs de la Ligue.
Parce que ça frappe. Là. J'ai sous les yeux là, dans le match entre Vegas et les Panthers, Radko Gudas qui va aller frapper Barbashev et Barbashev lui sert une mise en échec. Gudas a quitté d'ailleurs pour le vestiaire immédiatement après cette mise en échec. Gudas, c'est un solide. Barbashev, il l'a. Tu sais, je veux dire, c'est du hockey pour adultes là, dans les séries de fin de saison. Quand t'arrives en plus en finale de la Coupe Stanley, ça joue rough, là.
Ah, c'est plus que rough. C'est la guerre sur la glace. Je l'ai dit l'autre jour, l'avoir vécu l'année dernière, les deux fois, rendu en troisième round, là, les gars sont complètement vidés, brûlés, blessés de partout, des muscles déchirés, des tendons tout désectionnés. Écoute, c'est vraiment des gladiateurs. Puis c'est pour ça que tant que tu n'en deviens pas un, tu pourras pas éventuellement inspirer ton équipe, faire gagner ton équipe. Fait que tu sais, soit que ta question. Moi, ça n'a rien à voir avec Caulfield lui-même. Ça a à voir avec tous les joueurs de talent. À un moment donné, tu sais, on regarde Duclair, qui est un gars de talent pur, si tu veux, il y a plusieurs années. Puis on le regarde aujourd'hui, puis il est premier sur la rondelle, prend des mises en échec, va frapper tout le monde. Tu sais, un gars comme Perron, qu'on a vu, tu sais, j'ai coaché contre lui un junior. C'est un gars très, très offensif. Puis écoute, défensivement, je n'ai pas peur de le dire, là, c'était ses grandes faiblesses, là. Puis ça a pris du temps, puis ça a pris beaucoup de coaching, puis ça a pris surtout un engagement de sa part de non seulement le comprendre, mais de d'améliorer tous ces détails-là qui font que t'as un seuil de tolérance par rapport à ta défensive qui peut pas descendre plus bas que ça. C'est pas une question qu'un joueur offensif devienne un joueur défensif. Tu sais, ça me fait rire, les gens, c'est tout le temps d'un bord ou de l'autre. On peut-tu être quelque part dans le milieu où est-ce qu'un joueur défensif peut s'améliorer offensivement et qu'un joueur offensif peut s'améliorer défensivement? Parce qu'en bout de ligne, si tu veux gagner, t'as pas le choix d'être bon dans les deux sens de la patinoire. Fait que, tu sais, dépendamment de qui tu es, tu vas toujours appelé à améliorer l'autre sens de la patinoire qui est ta faiblesse. Fait que, tu sais, Ovechkin, ça a été la même chose. Mm-hmm. Pendant des années, il arrêtait pas de dire, ben, moi, je suis là pour scorer des buts, Ben, c'est ça, tu gagnes pas. Puis, à un moment donné, il a compris, puis a commencé à bloquer des lancers, puis a commencé à être le premier sur les replis défensifs, puis a commencé à laisser quelques points de côté pour justement inspirer son équipe. Parce que le talent, ça n'inspire pas. Le talent, ça impressionne. Mais ce qui inspire, c'est ce que tout le monde peut faire. Et c'est le courage, c'est les choses qui sont qui vont faire en sorte que les autres te regardent puis ils peuvent émuler ce que tu fais, ils peuvent copier ce que tu fais parce que c'est du courage, c'est de l'engagement. Ça inspire parce que tu es capable toi-même de le faire. Tandis que du talent, ça inspire pas parce que tu es capable de le faire ce que le grand gars de talent fait. Je sais pas si tu me suis.
Ah, très bien.
Un gars comme Crosby. Lui, il faut pas t'inspirer parce qu'il y a du talent. Je l'ai eu.
Il t'inspire parce qu'il travaille. Il travaille tout le temps.
Il travaille tout le temps. Il en fait 10 fois plus que tout le monde. Il paye le prix partout sur la glace. Là, je regardais Mark Stone, justement, sur le but de Vegas. Là. Moi, je l'ai eu, puis c'est un gars de talent exceptionnel avec la rondelle, une vision. Puis il est où, là? C'est pas lui, ses côtés, là. Il laisse Eichel être sur le côté, puis il laisse Marchessault sur l'avantage numérique. Il est où? Il est devant le filet. C'est un gars de talent. comme Crosby. Quand tu les regardes, ces gars-là, les marchands, ces gars-là, les gars comme Tate, Kopitar, ils sont où? Ils sont à l'intérieur. Ils vont payer le prix autant offensivement que défensivement. Puis ça, ben, c'est du courage. C'est de l'engagement. Et tout le monde peut apprendre ça. C'est pour ça qu'il y a un seuil d'efficacité défensive. Tu peux pas passer à côté de la Ligue nationale. Tu peux pas. Fait que c'est pour ça que je suis convaincu que le Canadien, autant Caulfield que Suzuki, à la longue, c'est les gars qui vont continuer de s'améliorer dans ce domaine-là, puis qui, je pense, vont un jour pouvoir inspirer leur équipe.
OK, Guy, tu penses que ça s'améliore? C'est pas tu l'as ou tu l'as pas, ça?
Ben non. Regarde, je vais donner un exemple parfait. L'année passée, Floride a fini premier dans la Ligue, ils se sont fait éliminer parce qu'ils voulaient pas défendre. Pas ils voulaient pas défendre, j'aime pas ça de dire ça comme ça, mais ils défendaient pas bien. Puis c'était vraiment pas un engagement total. Puis ils ont eu la difficulté de cette année. Pourquoi? Pour exactement la même raison. Puis à la fin de l'année, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à s'engager défensivement, commencé à bloquer des lancers, commencé à avoir des replis défensifs, commencé à avoir un troisième homme plus haut, commencé à prendre moins de chances, de ce qu'on appelle les chances 50-50. Tous les détails de gagnant, puis ils se sont mal gagnés. Puis depuis le début des séries, sont exceptionnels défensivement. Fait que, tu sais, c'est la raison pour laquelle ils se sont rendus là. Mais ça a été quoi la différence? Ils n'ont pas appris quelque chose de nouveau du jour au lendemain, là, tout d'un coup, là, quand il restait un mois avant la fin de la saison. Ça a été un engagement de choses qu'ils sont déjà capables de faire, mais qu'ils vont faire avec courage, parce que ça prend du courage. Ça prend de l'énergie. C'est pas le fun de défendre. Ça te tente pas de défendre. Tout le monde a le goût de jouer avec la rondelle. Tout le monde a le goût de jouer quand il y a de l'espace à la glace. En ça, des joueurs de périmètre, il y en a des centaines, puis des centaines, puis des centaines. Mais des gars d'espace restreint, qui payent le prix, puis quand c'est extrêmement difficile, puis regarde, c'est intimidant, ben, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est ces gars-là, finalement, qui finissent par prendre le dessus. Mais totalement. Moi, je me rappelle un coach qui m'avait dit, moi, j'en connais aucun joueur qui est mauvais défensivement. Mais j'en connais une maudite gang, son père, sur le bâton.
C'est vrai. Non, en fait, ce qu'on comprend, c'est que les clubs qui connaissent du succès en série, c'est des clubs qui sont prêts à faire des choses que personne n'a le goût de faire. C'est-à-dire, faut que tu t'impliques autrement que juste à marquer des buts. Il faut que tu fasses plus que juste ça. Sinon, t'as rien.
Mais non, absolument. C'est exactement ça. Puis tu regardes, écoute, ça fait des millénaires qu'on a ces exemples-là. Puis il y a des petits détails comme est-ce que tu bloques ton gars sur la mise au jeu? Est-ce que tu laisses ton gars aller? Est-ce que en repli défensif, t'es concentré juste sur la rondelle? Fait que là, tu passes à côté de ton joueur. Est-ce que en zone offensive, tes lancers sont tous de l'extérieur? 80% des buts sont de l'intérieur, en bas des points de mise au jeu, puis à l'intérieur des points de mise au jeu. Fait que t'es jamais là. Tu peux même pas en scorer les buts en série. Tu sais, je regarde Marchessault, c'est un Québécois. Écoute, ça, c'est du courage pur, ce kid-là. Wow. Puis c'est pas un gros gars, là. Mais c'est du courage. Il est tout le temps à l'intérieur. Il est tout le temps en train de puis en Kachuk, c'est la même chose. T'sais, c'est pas des gars qui sont 6 pieds 5, puis des énormes, puis tout ça, mais c'est du courage. Fait que c'est de l'engagement. Fait que tout ça... Ça s'apprend. C'est parce que ça fait mal. C'est parce que ça ne te tente pas. C'est parce que c'est difficile. Tu sais, j'en ai coaché. J'ai coaché 25 ans. Je veux dire, j'en ai vu toutes les sortes. Mais pour moi, le courage, un, ça s'enseigne en plus. Tu sais, les gens, ah, tu l'as, tu l'as pas. C'est pas vrai. Ça, c'est comme scorer, ça. Ah, le scorer, ça ne s'apprend pas. C'est pas vrai. C'est faux, ça. Est-ce que tu vas être un scoreur de 50 buts parce que ça te tente? Non, pas nécessairement. Par contre, tu peux passer de 8 buts à 15 buts, puis à 20 buts, puis 25 buts. Pourquoi? Je l'ai vu à tonne, ça. Je l'ai vu à tonne. Je me rappelle, moi, Jean-Paul Leveau, qui était mon entraîneur à McGill, me disait, il dit, garde-le, là. Il dit, tout le monde disait que scorer, ça ne s'apprend pas. Il dit, comment je le sais? Ben, j'étais pas scoreur junior, moi. Puis il a fini avec 50 buts avec Pittsburgh dans le temps de la renommée. J'ai appris à scorer. Un, tu te places où? Deux, t'es-tu à l'intérieur, puis est-ce que tu dégaines vite? Il dit, juste ces trois affaires-là, ça change quelqu'un. Puis il avait absolument raison. Je me suis tellement amélioré, puis il y a plein de joueurs que j'ai coachés, ça a été la même chose. Fait que, tu sais.
Mais attends, pour le.
Est-ce que tu vas être un gars de 50 buts? Ah, là, c'est un autre panamanche. Je vais être un Mike Bossy, puis tu sais, wow. Là, on parle des gars qui sont exceptionnels, mais apprendre à marquer des buts, ça s'apprend.
OK.
Premièrement, tu vas-tu à l'intérieur? 80% des buts sont là. Ça, là, juste ça, là, on réussit à améliorer presque tous les joueurs pour leur nombre de buts.
Okay.
Combien de lancers que tu as, la fréquence de tes lancers, puis combien de fois tu vas à l'intérieur.
Moi, je veux rester sur quelque chose, sur le courage. Je te dis, on est capable d'apprendre à marquer des buts, puis on est capable d'apprendre le courage. Comment t'apprends le courage?
Oui. La répétition. C'est la même chose que n'importe quoi. C'est un entraînement mental, comme n'importe quoi. Tu sais, genre, lui, il est fort mentalement. Ben oui, mais il est fort mentalement, pourquoi? Parce qu'il s'est exposé. Il a osé s'exposer. C'est la même chose que dans la vie. Moi, regarde, les exposés, oh, je donne des conférences maintenant. Je viens d'en donner une il n'y a pas longtemps devant 700 personnes. Puis là, oh, wow, toi, c'est facile devant le monde, puis devant un micro, on me regarde à RDS. Ah ouais? Ben, entre l'âge de 13 ans puis 17 ans, là, je vomissais avant un exposé oral. J'étais pas capable de shaker. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai continué à m'exposer à faire des exposés oraux à répétition. Puis à toutes les fois que ça me tentait pas puis que je voulais pas, je choisissais un cours à l'université où j'avais des exposés oraux à la fin. Fait que, à place d'éviter ce dont j'avais peur, je me suis exposé puis je me suis planté, Tu sais, le succès, c'est tout le temps la même chose. C'est un pattern. Premier pattern, est-ce que tu oses? Deux, tu échoues régulièrement. Puis trois, tu te lèves, puis tu persévères, puis tu recommences ce cycle-là. Tu oses encore la même chose, d'une autre façon, même si t'en honte, même si c'est difficile, même si tu sais pas comment, puis tu échoues encore, puis tu recommences encore, tu repersévères jusqu'à temps que tu aies du succès. Tu sais, Michael Jordan le disait, j'ai eu sa fameuse citation, là, j'ai joué 300 matchs, oui. On m'a donné 25 fois la balle pour gagner le match à la fin, puis j'ai échoué à répétition dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du succès. Alors, c'est oser, accepter l'échec, la difficulté, se relever, recommencer pour persévérer. C'est pour ça que les gens qui pensent que ceux, mettons, à la télévision ou ceux qui accomplissent des grandes choses, ils échouent moins que les autres. C'est le contraire. Ils échouent bien plus que les autres parce qu'ils s'exposent bien plus que les autres. Et c'est pour ça qu'ils réussissent à finalement avoir du succès.
Guy, c'est de la musique à mes oreilles. J'aime beaucoup le discours que tu nous apportes. Puis je veux juste traduire ça sur les Remparts de Québec, qui, dans le match de la finale de la Coupe Memorial, gagne 5-0. On parlait avec Stéphane Leroux tantôt qui nous dit « J'ai 7 pensées et je pense que Seattle a eu à peu près même pas 3 chances de marquer. On a joué un gros match défensif, on était opportuniste à l'attaque. Ça, c'est du dévouement total et complet. »
Ben absolument. Puis c'est garde. Ceux qui comprennent ça, les joueurs comprennent ça, les équipes comprennent ça, les entraîneurs qui comprennent ça, c'est pas compliqué. Ils gagnent. C'est aussi simple que ça. Que ce soit avec Hockey Canada, que ce soit dans le junior, Ligue américaine, Nationale, tout ça, moi ça revenait toujours à ça. Si tu fais juste défendre, ben là, évidemment, tu finiras pas par gagner à un moment donné. Mais si t'es pas capable de défendre, ben même ton offensive, garde, les McDavid, ces gangs-là, c'est meilleur au monde. Price, Hello, McDavid, ils réussissent pas à passer parce qu'ils sont pas encore rendus là. Il leur en manque sur ce côté-là. Alors, félicitations aux Remparts. Patrick, les Québécois, écoute, ça va bien, les Québécois, là. Ils gagnent la Coupe Memorial. On a Marchessault qui écoute des séries de rêves. On a Carrier et Roy à sa quatrième ligne qui font un boulot exceptionnel. On a Duclair à Floride. Écoute, c'est extraordinaire. Puis on a Tourigny avec les autres Québécois qui ont gagné la médaille d'or au championnat du monde. Fait que, ben, vive nos Québécois.
Ça fait du bien, Guy. Ça fait du bien. Hey, je te remercie. Ce fut un plaisir d'avoir l'opportunité de jaser avec toi. Bonne soirée, Guy.
Ben merci, ça fait plaisir.
Merci, au revoir. Guy Boucher qui est avec nous. Nous parlait entre autres, de Caulfield, mais c'est allé beaucoup plus large que ça. Vraiment intéressant, conversation avec Guy Boucher.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Mais pour l'instant, ce qui retient l'attention, c'est cette victoire des Remparts de Québec. Les Remparts de Québec qui remportent la Coupe Memorial, c'est une troisième Coupe Memorial pour les Remparts, mais c'était fait de façon magistrale. Victoire de 5-0 face à Seattle dans le match ultime. Les gars ont, je crois, trippé. Patrick Roy a trippé de voir son équipe tripper. C'était vraiment rempli d'émotions. Tout le monde est revenu à Québec. Et là, présentement, se déroule à côté du Centre Vidéotron à la place Jean-Béliveau, un get-together. J'utilise l'anglicisme, là, mais c'est un grand rassemblement des partisans. Et on a l'opportunité de parler avec Nathan Gaucher des Remparts de Québec qui est avec nous. Salut Nathan.
Salut, ça va bien?
Ça va super bien. Comment ça se passe pour toi, le rassemblement, les partisans qui sont là, signés des autographes, ça ressemble à quoi?
Ouais, bien, honnêtement, c'est super. On s'en sortit vers sa fin. On signe les dernières autographes, puis ensuite, on va se rassembler un petit peu, mais c'était super. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde, puis beaucoup de supporters à Québec. Là, c'est vraiment fun de voir ça.
Nathan, commences-tu à être fatigué un peu?
un petit peu. On est revenu dans la nuit hier soir, fait que peu de nuit de sommeil, mais honnêtement, on est juste vraiment excité. On est sur l'adrénaline un petit peu, on a gagné les deux trophées, on est super content.
Nathan, je voyais les images à côté du centre Vidéotron où vous regardiez des séquences de votre victoire. Encore une fois, les gars sont bras dessus. Il y a quelque chose de spécial avec ce groupe-là.
Ouais, tellement. Puis c'est, honnêtement, c'est ça qui nous a permis de gagner. Puis quand tu vis de l'adversité un petit peu avec un groupe, c'est là que tu vois à quel point ton groupe est solide. Puis nous autres, il n'y a pas assez de tests. On est rendu avec deux coupes, champion national. Puis on est vraiment contents. Ce groupe-là était spécial. Puis honnêtement, j'aurais tout fait pour ces gars-là. Fait que je pense que c'est la mentalité qu'on avait. Puis ça a marché.
Parle-moi du rôle de Patrick Roy là-dedans. Qu'est-ce que Patrick Roy a fait pour que votre groupe soit aussi uniforme que ça?
Honnêtement, je pense que ça part de loin quand même. Là. Ça part de 4 années de travail, d'acharnement, des joueurs qui ont joué ensemble assez longtemps, qui ont été peaufinés par quelques joueurs ici et là, mais c'est vraiment de construire une mentalité de gagnant, construire... Il y a de l'expérience, on va pas se le cacher, là, Patrick, avec comment gagner, là, fait qu'il nous a vraiment instauré ça en tant que de club de hockey.
Écoute, j'écoutais Stéphane Leroux faire une entrevue avec vous autres sur la glace, puis il parlait du speech d'avant-match de Patrick Roy. Ça ressemblait à quoi, ce speech-là? Ça avait de l'air spécial?
Ouais, ben honnêtement, tu sais, on sait que, comme je dis, là, il y a beaucoup d'expérience, il a vécu beaucoup, là, il a gagné beaucoup, donc c'était facile pour lui de nous donner des exemples de série, d'exemples de match numéro 7 ou de tournoi de la Coupe Montréal qu'il a gagné en 2006. Fait que ça se passait bien, puis il nous a remémoré à quel point ça fait 5 ans qu'on travaille fort pour cette coupe-là. Il avait pas prouvé ça, puis il est quand même là avec nous autres, passionné. Fait que c'est un bon speech, il nous a donné de la chair de poule, j'avoue.
On est en conversation avec Nathan Gaucher des Remparts de Québec. On termine les festivités du côté du Centre Vidéotron à Québec. Nathan, je veux savoir, t'as gagné le championnat mondial de hockey, tu viens de gagner la Coupe Memorial. Si t'avais à placer, y en a-tu un qui est en avant de l'autre?
Ouais, mais c'est sûr que c'est dur à dire, là, mais honnêtement, la Coupe Memorial, là, c'est une des coupes les plus difficiles à gagner pour une raison. Là. Tu vis ça avec les joueurs que tu joues, ça fait 4 ans, l'organisation à Québec, puis juste de ramener ça pour les partisans. Je pense que je la mettrais à la Coupe Montréal un petit peu au-dessus de celle de la Coupe mondiale. Là.
Nathan, j'ai joué au hockey midget 3 avec ton père, avec Yannick. Je veux savoir comment le paternel a pris tout ça.
Il était content, il était sur place. Il s'est déplacé jusqu'à Kamloops pour voir ça. Puis je pense que il est content de l'année que j'ai eue aussi. Puis il y a une grande part là-dedans. Là. Il m'a instauré beaucoup de culture, beaucoup de d'une culture gagnante dans le sens de tout le temps s'améliorer en tant que joueur de hockey, en tant que personne. Fait que, il y a une grande part à jouer là-dedans, puis il peut être jaloux aussi. Là.
Nathan, on te laisse filer. Je te dis un gros merci, puis encore une fois, félicitations pour votre victoire à la Coupe Memorial.
Merci beaucoup, c'est bien gentil.
Merci, au revoir. Nathan Gaucher des Remparts de Québec. Écoutez, on le prend là, il vient à peine de finir. On voyait des images du côté de TVA, on filmait, on était en direct, signait des autographes et puis il a pris le temps de nous parler pour nous donner un petit compte-rendu de ce qui se passe présentement. Je vous le dis, il y avait beaucoup de monde. Vous avez assurément vu les images hier, les gens étaient là à l'extérieur du centre Vidéotron. Et on peut-tu écouter? Ouais? Écoutez ça un instant, là. Voir
qui se retourne derrière pour Nathan Gaucher. Et c'est fait! Les Remparts de Québec sont champions de la Coupe Memorial! Et ils ne l'ont pas volé!
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Ils se retournent derrière pour Nathan Gaucher. Et c'est fait! Les Remparts de Québec sont champions de la Coupe Memorial!
C'est Stéphane Leroux hier sur les ondes RDS qui décrivait cette victoire des Remparts de Québec qui l'ont porté 5-0 contre Seattle pour remporter la Coupe Memorial. Stéphane Leroux est avec nous. Salut Stéphane.
Salut, ça va bien?
Ben ça va super bien. Je veux dans un premier temps te féliciter pour votre travail RDS. Ce fut un show vraiment intéressant et surtout avec une performance de la sorte des Remparts qui l'emporte 5-0 contre Seattle, offensivement, défensivement. Et vous avez fait, tout le monde a fait un bon show dans ce match-là hier.
Ben merci, écoute, c'est agréable, puis comme je disais, c'est plus facile quand l'équipe qu'on suit, qu'on couvre, a du succès. C'est la même chose quand le Canada gagne au championnat du monde de hockey junior, puis les Remparts, honnêtement, là, ont été impériaux, là, c'est le cas de le dire. Tu sais, je suis pas certain que Seattle a eu 3 ou 4 chances de compter dans tout le match hier, là, pour les gens qui ont suivi le match, puis on a eu des très bonnes cotes d'écoute. Fait que ça, c'est toujours plaisant aussi dans le business dans lequel on est, là. Mais tu sais, quand tu regardes ça froidement, là, c'était pas loin d'un match parfait, là, pour les Remparts, là, puis Seattle, c'était la deuxième meilleure équipe au Canada en termes de points. Ils avaient gagné les finales dans la Ligue de l'Ouest. Puis quand tu prends les deux matchs Québec-Seattle, c'est le match de lundi dernier que Québec a gagné 3-1, puis le match d'hier 5-0, ben ça fait 8-1 au total. Puis le seul but de Seattle dans ces deux matchs-là, c'est un but à 6-5 alors qu'on avait retiré le gardien. C'est donc dire qu'à force égale, les Remparts ont rien donné à Seattle, qui était établi là, pour la plupart comme favori pour ce tournoi-là. Le gros trio de Seattle, là, t'sais, avec Dylan Gunter, qui est un choix de première ronde, qui a joué 33 matchs dans la Ligue nationale, Brad Lambert, qui est un choix de première ronde, qui a joué 14 matchs dans la Ligue américaine, puis Reed Schaefer, qui est un gars qui joue pour l'équipe Canada Junior, qui est aussi un choix de première ronde. C'est 3 choix de première ronde sur le même trio, mais ils n'ont pas marqué en 2 matchs contre Québec. T'sais. Alors, quand tu regardes ça, là, c'est vraiment, vraiment spectaculaire ce que les Remparts ont fait. Jamais ils ont douté d'eux, puis la cerise sur le Sunday, c'est le blanchissage dans le match ultime. Écoute, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'est exceptionnel ce que les Remparts ont fait. Puis oui, il y avait des doutes à un certain moment. Je me rappelle au début du mois de mars, quand ils ont perdu 4 matchs de suite, on s'est mis à douter. Puis on regardait comment Sherbrooke jouait, puis comment Gatineau jouait. Puis on se disait, hey, Sherbrooke, Gatineau seront pas faciles à vaincre. Puis tu vois, regarde, c'est Québec qui est allé représenter la Ligue. Puis chapeau, honnêtement. Puis tu sais, en 2006, il y a des gens qui avaient dit, quand Patrick Roy et les Remparts avaient gagné, ouais, mais ils sont rentrés par la porte d'en arrière. T'sais, ils avaient perdu la finale contre Moncton, puis il avait été surprendre à la Coupe Memorial après, puis ils avaient gagné. Oui, c'est vrai, mais cette année, là, c'est la triple couronne. Champion de la saison, champion des séries, champion de la Coupe Memorial. Merci, bonsoir.
Et en plus, Stéphane, mine de rien, c'est la 4e Coupe Memorial de suite pour la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec.
7 en 11 ans. Tu sais, ça, c'est le fun aussi. C'est la première fois depuis la formule actuelle de 1972. Tu sais, on a commencé le format du tournoi à la ronde de la Coupe Memorial comme on le connaît présentement en 1972. C'est jamais arrivé qu'une ligue gagne 4 ans de suite. Tu sais, puis moi, je me souviens tellement de mes débuts à RDS il y a 33 ans qu'on se présentait à la Coupe Memorial puis on se faisait niaiser, passe-moi l'expression québécoise, là, par les gars de l'Ouest puis l'Ontario. Hey, à l'air de quoi votre petite équipe Midget 3A cette année? T'sais, parce qu'on perdait, on perdait, on perdait, puis souvent on gagnait même pas un match. Puis tout a changé quand les Prédateurs de Granby ont gagné en 96. Puis depuis 96, là, écoute, ça fait 27 ans, mais il y a eu 2 années qu'il n'y a pas eu de Coupe Memorial à cause de la COVID. Ben c'est le Québec qui en gagne le plus, c'est pas compliqué. Puis c'est le Québec qui est le plus souvent en finale. T'sais. Écoute, 7 en 11 ans, là, on n'aurait jamais pensé ça. Là, t'sais, dans les années 90, quand ça faisait 25 ans que le Québec en avait pas gagné une, mais c'est ça. La mentalité peut-être a changé au niveau de la façon de construire nos équipes ici au Québec. Puis quand c'est ton année, c'est comme les Remparts cette année, c'était leur année. Ça faisait 4 ans qu'ils préparaient ça. T'sais, ils ont 5 joueurs dans l'alignement d'hier qu'ils ont repêché en 2019, que ça fait 4 ans qu'ils jouaient avec les Remparts. Il y en avait un autre qui était repêché en 2018, ça faisait 5 ans qu'ils jouaient avec les Remparts. 2 autres en 2020, ça faisait 3 ans qu'ils jouaient avec les Remparts. Puis là, après ça, tu fais une coupe de transactions pour aller chercher des gars clés pour entourer ce noyau-là, puis ça a donné ce que ça a donné cette année pour les Remparts. Là, une équipe qui a été dominante, qui avait 15 joueurs de 19 ans dans son équipe, ce qui est pas rien. Là, moi, depuis les 25 dernières années, là, j'ai la moyenne d'âge de toutes les équipes de la LHGMQ. C'est la deuxième plus vieille équipe en termes de moyenne d'âge qui a joué dans la LHGMQ. Puis la plus vieille, c'était les Sea Dogs de Saint-Jean l'année passée, puis eux aussi, ils ont gagné. Alors, les équipes au Québec se disent de plus en plus, ben quand c'est notre chance, quand c'est notre ouverture, notre fenêtre, là, la fameuse expression, ben regarde, on y va, puis on va voir ce que ça va donner. Puis il y a des équipes qui ont essayé, tu sais, comme Sherbrooke, puis ça n'a pas fonctionné, puis il y en a eu d'autres dans le passé qui ont essayé aussi, puis que ça n'a pas fonctionné. Mais les Remparts, honnêtement, le succès à Bathurst en 2018, Rouyn-Noranda en 2019, puis Saint-Jean l'an passé, on sait qu'en 20 et en 21, il n'y a pas eu de Coupe Memorial, fait que ça fait 4 de suite, puis ça, c'est du jamais vu.
Moi, je veux dire une chose, Stéphane, si je regardais les images, puis on le voyait hier dans votre reportage, on le voyait aujourd'hui quand les gars, et on a parlé avec Nathan Gaucher, on l'a eu en début d'émission, on voyait des gars qui regardaient regardais les faits saillants de leur match à côté du centre Vidéotron à l'extérieur avec les partisans, puis les gars étaient encore bras dessus. C'était comme ça quand on attendait pour avoir la Coupe Memorial. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial avec ce groupe-là. Ouais. Tu sais, il y a un coach qui a rendu ça spécial, cette équipe-là.
Ouais, ben c'est moi. Mais si vous avez suivi notre après-match hier, tu sais, c'était un peu dans ce sens-là que j'allais sur la glace quand j'étais faire les entrevues. Tu sais, j'essayais de savoir avec les joueurs, tu sais, si Patrick avait été différent dans son speech, parce qu'on connaît tous les enjeux. On sait tous que pour Patrick, là, c'était probablement son dernier match avec les Remparts hier comme entraîneur. Qu'est-ce qui va arriver par la suite, on le sait pas encore. Peut-être que lui le sait, puis nous on le sait pas là. Mais tu sais, je pense que ça l'a rendu ça spécial aussi. Puis Simon Gagné s'en est mêlé aussi. Puis, tu sais, Simon Gagné, il y a eu une bonne histoire qui a été sortie cette semaine par Michael Lalancette dans le Journal Le Soleil. Simon Gagné avait gagné la Coupe Air Canada à Kamloops en 96. Alors, il a ramené ça aux joueurs. Tu sais, dans la première séance d'entraînement de l'équipe à Kamloops, il a dit, hey, les boys, la dernière fois que je suis embarqué sur cette glace-ci, là, moi, j'ai compté deux buts, puis on a gagné le championnat canadien midget avec une équipe de Québec aussi, tu sais, qu'on appelait les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque. Tu sais. Alors, il y avait tout ça, je pense, qui rendait ça encore plus spécial. Puis le fait que les gars jouent ensemble depuis 4-5 ans, puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire des transactions puis de monter une équipe avec plein d'échanges, parce que les deux modèles ont fonctionné dans les dernières années. Tu sais, les Sea Dogs en ont fait plein d'échanges l'année passée, puis ils ont gagné. Puis cette année, c'était une équipe qui, au contraire, avait pas mal été élevée ensemble. Tu parles de Nathan Gaucher, tu sais. Ben lui, ça a été le premier choix de l'équipe en 2019. Fait 4 ans qu'il joue là, tu sais. Puis ça, je pense que ça cimente beaucoup plus la façon dont l'équipe est, puis quand ça va pas bien, ben on est habitué, puis on est capable de se retrouver ensemble. Puis ah non, écoute, chapeau. Moi, j'ai été dans les sceptiques. En demi-finale, j'avais choisi les Olympiques pour battre les Remparts. Puis quand les Remparts ont gagné en 4, j'ai dit wow, là, il se passe de quoi avec cette équipe-là. T'sais. Puis en finale, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis j'avais choisi les Remparts pour l'emporter. Puis j'étais confiant là-bas. T'sais, c'est sûr que de faire une prédiction en début de Coupe Memorial, c'est difficile. Mm-hmm. Moi, ce que j'avais dit, c'est j'ai l'impression que ça va être Seattle et Québec en finale. C'est ça qui va arriver. Mais après ça, ça se joue sur un match. Tu sais, un match, là, ça y a tellement de choses peut arriver dans un match. Une mauvaise punition, un gardien qui tombe sur la tête. On l'a déjà vu au championnat du monde de hockey junior, des matchs de la médaille d'or où, tu sais, il y a eu des surprises. Mais hier, honnêtement, là, les Remparts ont dominé. Je te le dis, là, je repensais à ce match-là aujourd'hui. On était en voyage. On vient de revenir, là, de l'Ouest canadien. Puis, je suis pas capable de me rappeler, là, de 3 bonnes chances de marquer de Seattle pendant le match hier. Puis, la défensive des Remparts, tu sais, tu regardes ça, le top 4. Oui, il y a 2 gars qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale, comme Aroff et Noss, mais c'est pas des gars qui ont été repêchés en première ronde, c'est des gars de troisième ronde, cinquième ronde. Puis les deux autres, Truchon puis Savoie, des gars qui jouent depuis 4 ans puis 5 ans à Québec, c'est même pas des gars repêchés. Tu regardais l'autre côté, Seattle, il y avait 2 choix de première ronde de Chicago qui étaient sur leur top 4, puis un autre sur la deuxième paire qui était repêché aussi dans une équipe de la Ligue nationale. Alors, sur papier, là, Seattle était meilleur. Il y avait 6 gars repêchés dans la Ligue nationale. Il y a 5 choix de première ronde, 6 gars d'équipe Canada junior, puis je vais te dire, ça n'a pas paru. Là. C'est Québec qui a le mieux joué, qui a mieux exécuté, qui a mieux contrôlé tout ce qui s'est passé. Puis je pense que le repos de 4 jours, le fait qu'on a gagné ce match-là lundi dernier, qui a assuré les Remparts de s'en aller direct en finale, ça l'a encore prouvé qu'à ce stade-ci de l'année, quand t'es rendu à 90 matchs de jouer, le repos devient l'arme la plus importante, puis je pense que c'est ce que Québec a démontré hier. L'exécution était là, l'équipe était plus reposée, puis le gardien était bon, tout est tombé en place, tout a marché sur des roulettes pour les Remparts de Québec.
Exactement. Avec cette victoire-là, vraiment, on voit que c'est une équipe qui a dominé tout au long de la saison. Stéphane Leroux, merci. Prends le temps de te reposer un peu. Et on recommence dans pas long. Le repêchage s'en vient de la Ligue nationale.
On a deux jours de repos. Puis après ça, à partir de jeudi, ben, c'est les assises à Sherbrooke, le temps de la renommée de la LHGMQ, le repêchage midget. Fait qu'on s'en va là, puis on continue.
Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous.
Merci, salut.
Merci, au revoir. Stéphane Leroux qui faisait la description hier à RDS de cette victoire des Remparts de Québec.
Les amateurs de sport.
C'est 23.